Eh bien, merci beaucoup. Merci aux organisateurs de m'avoir permis de me permettre de vous présenter cet ouvrage. Également, c'est aussi au nom de Catherine, même si ce sera aussi un retour, comme je dis, sur l'ouvrage. Il est paru en 2014, donc c'est déjà loin pour un chercheur, puisqu'on avance assez vite finalement dans les productions. Et donc c'est aussi pour moi une replongée dans mon propre travail, donc une lecture, une nouvelle lecture, si on peut dire, de ce projet qui a pris forme donc dans cet ouvrage, Le sexe de l'enquête, approche sociologique et anthropologique. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est un ouvrage qui est sorti en 2014 aux éditions ENS Éditions, donc édition de Lyon, je le dis parce que j'ai repéré dans les comptes rendus autour de cet ouvrage régulièrement Paris comme ville de l'éditeur, et il ne serait pas content, je pense. Les éditeurs souhaitent conserver les villes d'édition. C'est aussi un ouvrage qui a très vite été mis dès juillet 2015 en book open édition, et c'est sans doute révélateur pour l'éditeur d'un type d'intérêt. Je ne dis pas l'intérêt en soi, mais je pense que le questionnement posé et les propositions de cet ouvrage, il les a incités à nous mettre très rapidement, on a été surprise, parce que très rapidement en open édition. Donc je rappelle aussi que mais je vais y revenir, c'est un ouvrage collectif, mais avec une structure qui est un peu particulière, quand même. Je vais y revenir parce que ça fait partie de la spécificité aussi de cet ouvrage, mais que j'ai dirigé avec Catherine Pujot. Mais je vais revenir sur un peu nos profils et ce qui a fait la rencontre. Donc, pourquoi aussi j'ai envie de revenir sur l'histoire en amont de l'ouvrage, parce que je crois qu'il constitue aussi une compréhension de l'ouvrage lui-même. Et également du contexte de production. C'est-à-dire que quand on pense production, il me semble qu'il est toujours important aussi de relier les productions à un contexte. Et les contextes de recherche évoluent très vite. Et c'est pour ça que je crois que ça fait partie pour moi d'une entrée possible. Alors, déjà, première chose, c'est un ouvrage qu'on a dirigé à deux femmes. C'est pas non plus peut-être complètement un hasard quant à aussi le sujet qu'on a traité ensuite et le choix du sujet, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure à Yolande, c'est que c'est un projet qui a été formalisé grâce à nos rencontres dans les couloirs. On était dans un même labo et on, comme vous, on boit un café, on discute sur un, puis on dit un jour, ça serait bien de faire quelque chose ensemble. Mais quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ensemble? Donc, à l'époque, j'étais au CERLIS, c'est-à-dire un laboratoire de sociologie, à l'époque dirigé par François de Singly, c'est le laboratoire de recherche sur les liens sociaux. C'est aussi un contexte qui n'est plus celui d'aujourd'hui pour moi, puisque je ne suis plus au service. Une chose aussi qui est importante, c'est notre profil. Et c'est sans doute ça aussi qui fait la spécificité de l'ouvrage. C'est que Catherine Pujot est maître de conférence donc à l'université Paris-Descartes. Et moi, j'étais chercheur. Donc déjà, il y avait ce dialogue depuis longtemps entre le chercheur et l'enseignant-chercheur. Je crois que ça a été aussi un des éléments pour choisir le sujet phare, parce qu'on va après travailler un peu ensemble sur d'autres thématiques. mais sur un des sujets qui nous tenait à cœur. Alors, elle travaillait sur les fiançailles, c'est son domaine, le mariage, les fiançailles. Elle était sensible à l'ethnologie, même si elle est très sociologue, d'une certaine manière, dans sa façon de concevoir ses interrogations, par l'histoire aussi. Et travaillant sur le mariage et les fiançailles, et ben elle a croisé la question de genre. Je dis ça quand même, c'est important. Elle n'en a pas fait son objet d'étude. Et puis, depuis des années, dans ses enseignements, eh bien, il y a effectivement la question de la méthodologie, de l'enquête de terrain, etc. Et donc, ses cours sont, une partie de ses cours en tout cas, sont sur ces questions. De mon côté, donc moi, à l'époque, quand on a commencé, c'était donc autour des discussions entre nous autour de 2004. C'est important aussi, le contexte, 2004. Donc, les débuts des années 2000. À l'époque, j'étais chargée de recherche. Depuis, j'ai soutenu une HDR. Je suis passée directrice de recherche. Et c'est important à dire, mais vous l'avez dit, j'ai une formation en ethnologie tout en ayant été recrutée en sociologie. C'est pour ça que j'ai un peu les deux étiquettes. Tout en, malgré tout, revendiquant quand même beaucoup plus le fait, et d'ailleurs, il suffit de voir ma bibliographie, plutôt ethnologue. Mes publications sont souvent dans des revues qui sont les revues d'anthropologie. Donc mes travaux, les couturières, ouvriers à l'hôpital, ça a été un peu évoqué, m'ont aussi conduit à croiser le genre. Le genre était là, mais de façon indirecte. Et parallèlement, j'ai toujours été très soucieuse de la méthodologie. C'est-à-dire de comprendre ce que je fabriquais, comment je le fabriquais. Qu'est-ce que c'est que le métier d'ethnologue, de sociologue, et ce qui a fait aussi que dans le cadre de la Société d'ethnologie française, depuis maintenant 2010, on organise tous les ans des colloques sur le thème de ethnographie plurielle qu'on décline justement sur carrière, premier pas, il y a eu les comparaisons, le prochain, je ne sais pas si vous avez vu l'appel à Rouen sur la question ethnographie et engagement. Et donc l'ethnographie aussi est au cœur de mes questionnements. Donc, deux femmes, une qui se revendique clairement sociologue, une ethnologue, et avec une conscience, puisqu'on en a beaucoup discuté, pour essayer aussi de penser après ce qui va être le bouquin, qui va être d'abord un séminaire, ben, nos différences, mais aussi nos complémentarités. Parce que l'idée aussi, c'était, et ça a été aussi la difficulté, à la fois de penser qui va amener au bouquin, c'est-à-dire le séminaire, s'il y a eu un séminaire, je reviendrai, et ensuite faire que les deux disciplines soient présentes, mais pas en les distinguant et en faisant un partage, même si on sait aussi, en réalité, le partage existe encore bien souvent. C'est-à-dire que la difficulté de passerelle entre parfois nos deux disciplines existe. Et on s'en rend compte beaucoup plus à des moments déterminants comme les concours, des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y avait aussi à respecter l'identité de l'autre, et c'est vrai que ça a fait partie de notre discussion. Ça ne traverse pas le bouquin, ce n'était pas le propos, mais je trouve que c'est important de savoir comment se mûrit et se fabrique un projet. Et c'est justement en croisant toutes ces données, et pas seulement, je reviendrai aussi, que la question de méthodologique a été centrale. C'est même, en fait, d'emblée, on s'est dit, si on doit faire quelque chose à deux, ça va être sur la question méthodologique. Premier point. Deuxième point, c'est que finalement, il y avait eu peu de choses sur cette question, mais j'y reviendrai. Moi-même, j'avais en 2001, dans le cadre de la Société d'ethnologie française d'ailleurs, participé à des journées d'études qui étaient consacrées justement à l'enquête et au lien de la relation d'enquête avec l'âge, le critère âge et sexe. À l'époque, c'était Agnès Jean-Jean et Eliane Daffy qui avaient organisé ces journées. Et c'est vrai que c'est peut-être à ce moment-là, donc 2001, que j'ai commencé à me poser la question de la relecture de mes propres travaux à travers cette question du genre. C'est quelque part par l'extérieur, voilà, que cette question m'est revenue et que j'ai regardé mes propres travaux dans ce sens. À l'époque également, donc, si on regardait ce qui était fait sur la question justement du sexe de l'enquête, eh bien, il n'y avait pas grand-chose. Ou en tout cas, quand on ne regardait pas de près, ce qu'on va faire après, c'était assez peu abordé. C'était peu abordé. C'est pour ça que, sans vouloir en faire un séminaire, puisque ça a d'abord été un séminaire, puis un ouvrage seulement à recettes, etc., puisqu'on ne trouvait rien, on s'est dit, on repense les choses aussi autrement. Il y a un manque, mais n'essayons pas d'être... parce qu'on aurait pu, finalement... se dire, ben, on prépare un manuel, on commence par un séminaire, et en fait, on va faire un truc méthodo. C'était plus compliqué, on s'est dit, non, on veut faire autre chose. Et je pense que l'ouvrage, il est révélateur, et on voulait... Et cette autre chose, c'était... enfin, notre ambition était le travail collectif. C'est-à-dire que on ne voulait pas réduire la réflexion à notre propre réflexion. Donc... d'emblée, on a créé, enfin on a mis en place, on a organisé un séminaire qui a duré 2 ans. D'ailleurs, Pierre, qui est là, ici présent, est venu intervenir. Il n'a pas fait partie des auteurs ensuite visés parce qu'il venait juste de sortir son article dans ethnographique.org sur cette question, mais de l'âge aussi. Voilà. Ouais, et lui, il a suivi, voilà, parce qu'il n'y avait pas eu de production, et puis, en fait. Donc, il y avait des petites choses qui arrivaient, mais finalement, pas grand-chose. Alors, une autre motivation, c'est que on observait une montée en puissance de l'ethnographie en SHS. Ça aussi, c'est important, parce que je pense que cette montée en puissance a amené à se poser la question de qu'est-ce qu'on fabrique, puisque tout le monde se mettait à faire de l'ethnographie. C'est-à-dire, quand je dis tout le monde, il y a des disciplines différentes, etc. Donc forcément, il y avait un contexte qui faisait qu'on avait aussi envie de se poser et se dire, mais oui, mais c'est quoi cette histoire? Donc là aussi, ça a sans doute été un moteur dans le choix du séminaire d'abord, puis après de l'ouvrage. Alors le séminaire, il a duré de 2 ans. On avait choisi de tester un peu, donc on était parti sur des thèmes, par exemple le vieillissement, la santé, la sexualité, le corps, le travail, etc., etc. Et on essayait de trouver des collègues travaillant là-dessus. Et en leur demandant de relire leurs travaux à la lumière de la question du genre dans l'enquête. Et ça aussi, c'est important parce que par contre, ça va nous suivre. C'est-à-dire que les auteurs qu'on va choisir ne sont pas forcément des auteurs qui se revendiquent des gender studies, où, mais c'était ça qui nous importait aussi. C'est-à-dire qu'on pouvait interroger la question du rapport de sexe, etc. Alors que, a priori, notre sujet de départ n'était pas. C'est-à-dire que ça nous ramenait, et c'était ça, je trouve, qui était important, c'est de ramener les chercheurs à la question. Quelque part, un exercice un peu imposé. Alors, je vais aller vite, parce que c'est peut-être pas le plus important, mais si, quand même, parce que ça va aussi être important pour la suite, c'est que, comme on avait du temps, etc., on avait essayé de faire un peu équilibrer, donc des milieux mixtes, des milieux féminins, des milieux masculins, donc essayer d'avoir la configuration, toutes les configurations possibles, homme-homme, femme-homme, femme-femme, homme-femme, etc., dans des milieux mixtes, etc., pour essayer de comprendre s'il y avait réellement des choses différentes qui se passaient au moment de l'enquête ou pas. Si finalement ce questionnement avait un intérêt ou pas. Est-ce que le critère de genre avait un intérêt ou pas. Donc, on a comme ça demandé aux intervenants à l'époque, mais aussi ensuite à ceux qui contribueront au volume, eh bien de penser leur parcours de l'enquête, mais de l'amont en aval, c'est-à-dire jusqu'à l'écriture. Et là, c'était très intéressant, parce que ça va aussi avoir le problème qu'on a eu, entre guillemets, plutôt les manques qu'on a eu au moment, ou nos déceptions, on va dire, nos frustrations, eh bien, en fait, elles se sont aussi poursuivies au moment du livre. C'est-à-dire que que ça soit surtout ensuite pour la publication, on donnait un cadre assez libre, mais il y avait un cadre. C'est-à-dire qu'à chaque contributeur, nous avions fait une liste de questions sur l'amont, l'aval, le moment de l'enquête, etc. Donc en fait, ils avaient un cadre. Et en fait, c'était très intéressant de voir qu'il y avait beaucoup de choses qui disparaissaient et que ce qui finalement a été restitué de des enquêtes en général, c'était le moment de l'enquête, pas le avant, pas les choix personnels, parce qu'on demandait aussi, mais vos choix personnels, est-ce que le fait d'être une femme va influencer sur votre choix de sujet, est-ce que ensuite, même jusqu'au moment de l'écriture, est-ce que vous pensez que vous avez une écriture féminine, masculine, enfin l'idée c'était un peu de tester aussi pour nous, hein. Et là, pouf. Et on s'est dit, c'est que l'exercice doit être difficile, on peut se poser cette question, ou pas pertinent, ça peut être une autre question. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une pertinence à parler de soi? Il faut se poser la question. En quoi ça a un impact sur notre enquête, ou même sur l'analyse? Parce que quand je parle d'enquête, je l'entends moi au sens large, c'est-à-dire jusqu'à l'aboutissement, c'est-à-dire le dépouillement, l'analyse et ce qu'on en fait. C'est-à-dire la restitution et le choix qu'on fait de nos travaux. Ben, est-ce que ça va être influencé par le fait que je sois une femme, un autre homme, etc. Et puis on peut aller beaucoup plus loin. Et ça se voit moins effectivement, mais ça aussi je pense que c'est dû au contexte, l'orientation sexuelle. Mais j'y reviendrai. Donc, finalement, qu'est-ce que le genre fait à notre recherche, même plus qu'à l'enquête? Et ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi, mais pas parce qu'on n'a pas pensé. C'est pas parce qu'on n'a pas voulu. Et qu'on aurait pu, effectivement, aussi choisir le temps de l'enquête. Mais vous, pour ceux qui ont lu, pour ceux qui liront, vous verrez qu'il est vraiment question des enquêtes, du moment de l'enquête. Et je trouve que c'est assez révélateur aussi, peut-être aussi du contexte. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ça a changé. Aujourd'hui aussi, J'avais mis, il y a l'arrivée d'une nouvelle génération de chercheurs qui prennent davantage au sérieux peut-être et la réflexivité, même si en ethnologie, il y a longtemps qu'on la prend en compte, mais quand même, en sociologie, ça, et c'est pour ça que je dis que la place de l'ethnographie est importante dans cette histoire, parce que c'est elle qui nous ramène aussi à la réflexivité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fabrique, comment on fabrique, et quelle est la place du chercheur des biais, même si c'est un thème classique, de la question du biais dans l'enquête. Il y a ça, et puis il y a le développement aussi d'une génération sur la question de la sexualité et des orientations qui va maintenant fondamentalement changer, je pense, les approches. Et alors, je ne suis pas forcément mon exposé, parce que c'était un peu pour la fin. Je tiens à le dire parce que je voulais finir mon exposé avec la réception de l'ouvrage, parce qu'on a eu la chance d'avoir pas mal de comptes rendus, de disciplines différentes. Eh bien, il y a cette question-là qui nous est posée. C'est-à-dire que, ben, ok, c'est bien, vous abordez le sexe de l'enquête, sauf que vous oubliez mentionner, alors on ne l'a pas oublié, on n'a pas oublié de mentionner la question de l'orientation sexuelle, mais c'est vrai qu'on n'a aucun terrain sur les transgenres, on n'a aucun terrain sur l'homosexualité, on n'a aucun terrain. Voilà, c'est un genre, on pourrait nous dire classique. Vous êtes resté dans une forme de classicisme du genre, c'est-à-dire sans aller jusqu'à des formes de transgression de la norme, etc. Alors, c'est pas dans le bouquin, tout ça, évidemment. Et c'est pour ça que mon exposé, il est à la fois sur le bouquin, mais en même temps, je voulais aussi aborder les manques, parce qu'ils sont aussi très révélateurs, à la fois, et les contextes, parce qu'ils sont très révélateurs de l'évolution aussi d'une production. Et je pense que c'est peut-être grâce à nous que Isabelle Claire a publié récemment un article sur la question de la sexualité et de la méthodologie. Il n'y a pas si longtemps que ça. Elle nous avait bien aussi critiqué sur nos manques. Et j'y reviendrai aussi. C'est pour ça que je dis depuis le début, nous avions croisé, mais nous n'étions pas. Et ça, c'est important. On sait qu'il y a des territoires et qu'on n'appartenait pas au territoire de ceux qui travaillaient du côté du genre. Et ça aussi, c'est très révélateur dans les façons dont on lit un ouvrage. C'est-à-dire, évidemment, le manque, c'est ben, vous n'êtes pas assez féministe, vous lancez des piques féministes, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela. OK. Alors, le problème, la critique en soi, bon. Pourquoi pas, hein. C'est pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est elle nous révèle quoi? Et elle nous révèle quoi aussi du changement de nos propres disciplines et de comment on réinterroge aujourd'hui certaines choses. C'est pour ça que c'est important. Notre bouquin, finalement, on a commencé à le penser dès les années 2005. Mais la recherche, elle va très très vite maintenant, d'une certaine manière. C'est ça aussi que j'ai réalisé aussi, ce retour sur l'ouvrage. C'est ça qui est intéressant aussi de faire ce retour sur l'ouvrage. C'est que la recherche, elle va très vite. Et entre le moment où on fabrique quelque chose et la recherche qui avance, ben, des fois, ça se télescope pas. Voilà. Mais c'est aussi ça qui est intéressant. C'est aussi ça qui m'intéresse dans ce retour sur cet ouvrage qui revient sur la méthodologie, etc. Mais je vais y revenir, évidemment. Donc, 7 ans se sont passés aussi entre le moment où on a fait notre séminaire et le moment où l'ouvrage est apparu. Et ça aussi, c'est important. Également aussi, parce que ça va constituer l'ouvrage, c'est que l'éditeur, nous avions l'intention de le faire et on avait commencé à le faire. Mais devant le boulot, pour vous dire, c'est aussi ça la cuisine de l'édition, le bilan de la question, on s'était fait comme ça pour nous, c'était important, mais on avait dit, non, pour l'instant, on ne publie pas, il faudrait vraiment le faire de façon minutieuse, c'est énorme comme boulot, on ne fait pas. Donc, on a envoyé notre manuscrit un collectif classique avec ce qu'on avait déjà repéré en séminaire, c'est-à-dire des femmes qui travaillent dans un milieu d'hommes, des hommes, etc. Et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça nous dit de l'enquête. Et là, l'éditeur nous dit, ben nous, on veut bien vous publier, mais il nous faut un bilan de la question. Ah, d'accord. Donc, 2 ans de travail en plus. Et on a dit, ok, on le fait. On le fait, c'est vrai qu'on a tout intérêt à le faire. Ça nous a permis, justement, de revenir sur le contexte. Hein, on est sur, voilà, des voilà, une période où on s'interroge sur un certain nombre de choses et on comprend que l'éditeur... Alors là aussi, après, il y a eu aussi un parti pris de notre part. C'est-à-dire, on fait un bilan, mais sur quoi? Sur quoi on se base? Alors on a décidé de travailler sur les articles, de monter un corpus d'articles qui croisaient de façon visible la question du genre et de la méthodologie. Pas la question du genre. Il y a déjà des manuels sur le genre, il y avait déjà à l'époque des manuels sur le genre, donc nous, il n'était pas question de répéter les... C'était pas notre intérêt. Ce qu'on nous a reproché aussi. Pourquoi vous avez fait... Non, notre problème, c'était pas le genre. C'était la méthodologie du genre. Donc, ce choix-là, plus les manuels. Parce qu'on s'est dit, ah, quand même, ça serait intéressant de voir que si dans les manuels, on aborde cette question. Et là, surprise, des petits paragraphes, quelques lignes, etc. Rien, autrement dit, rien. Je parle de l'époque. Parce que maintenant, ça, on a avancé aussi. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est qu'on a avancé et qu'il y a un petit peu plus de choses sur méthodologie et genre. Déjà, parce qu'on a aussi écrit un ouvrage là-dessus. Mais en fait, progressivement, le bilan de la question va être assez fondamental parce que il va nous aider aussi à comprendre les productions contemporaines, c'est-à-dire celles de nos contributeurs. Parce que l'idée, c'était d'essayer de repasser vers toute la production qui pouvait être lisible dans un certain nombre de revues classiques de la sociologie et de l'anthropologie. Donc, finalement, les articles qui questionnaient le métier de chercheur, de sociologue et d'anthropologue, et c'est là où c'était compliqué, c'est-à-dire que le corpus y jonglait avec une littérature sociologique, une littérature ethnologique qui n'est pas forcément la même, hein. Et le problème, après, c'était comment restituer tout ça, tout en respectant chaque discipline. Donc, c'est vrai que l'exercice a été un peu compliqué, mais on a fini sans doute par s'en sortir en optant sur une analyse du... On a dépouillé, hein, on a analysé, et faire ressortir des thématiques. Parmi elles... Et certaines thématiques, oui, nous poussaient, nous amenaient plutôt vers la sociologie ou vers l'anthropologie. Mais c'est ça aussi qui a permis de ne pas faire la socio dit ça, et puis un petit peu. Donc là, on voulait vraiment éviter ça. Et j'espère qu'on a réussi. Par exemple, parce que je crois que c'est important aussi pour saisir aussi comment on a structuré après le bouquin, qui va être en fait les thèmes révélateur de comment on peut questionner sur le terrain cette question de sexe. Par exemple, hégémonie des classes sociales. On a, mais justement, ce qui était intéressant, c'est de montrer que ce qui était questionné, c'était la classe sociale et pas le reste. Place des femmes dans le travail d'enquête. Entre parenthèses, j'ai mis reconnaissance, délégation. Alors, en même temps, rien de très étonnant si l'on croit ces données à une sociologie du travail des femmes en général. Et c'est ça aussi qui était intéressant. C'est-à-dire que les chercheurs, femmes, tout d'un coup, on pouvait apercevoir un certain nombre de choses grâce à la question de qui faisait quoi. Donc on s'apercevait que les femmes étaient plutôt des petites mains. Et donc se poser la question de la reconnaissance, etc. Donc ce qui était intéressant aussi, c'est de s'apercevoir que certains thèmes nous ramenaient finalement à des questions sociologiques assez classiques sur la place des femmes au travail. Être célibataire ou en famille. On s'était aperçu aussi que dans les textes qu'on avait réussi... c'est important aussi, je n'ai pas dit, mais corpus français. Parce qu'on s'est dit, si on commence par aller voir ce qui se passe chez les Américains... Donc, on a évoqué les Américains, seulement s'ils étaient évoqués dans les textes, explicitement, ou dans les manuels. Mais sinon, on s'est dit, ah non, on ne va pas s'en sortir, surtout que l'histoire de la discipline, et justement, par rapport, surtout à ces questions féministes de genre, on n'est pas tout à fait au même rythme. Donc, on a pensé tout ça en fonction du corpus français. C'est important parce que, c'est des petites choses, mais finalement, des grosses. Eh bien, être célibataire ou en famille, par exemple. C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de faire une enquête seule ou en famille? Est-ce que quand on est en famille sur le terrain, ça va changer les choses? Est-ce qu'on est en couple? Quand on était en famille, c'est-à-dire qu'on interrogeait l'enquête en couple. Alors, l'enquête en couple, c'est-à-dire l'enquête en tandem, un homme, une femme, ou marié, quoi, enfin, un couple. Donc là aussi, c'est intéressant aussi, ça. Ressortait de tous ces textes cette possibilité de dire ah ben oui c'est vrai pourquoi ah ben ouais Godelier il est parti en famille ah oui c'est vrai et alors ça a changé quoi donc on se dit ah ben là il faut être attentif. Ça nous a permis d'être attentif aussi à certaines choses, par exemple le statut d'étranger aussi. On arrive sur le terrain, c'est quoi cette affaire, et étranger homme, femme, est-ce que ça change quelque chose? Ordre moral. Apparaissait aussi toute cette question de l'ordre moral, des assignations de genre, des stéréotypes. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Quand on est dans un milieu d'hommes, etc. Finalement, ça nous a permis aussi de sortir un certain nombre de préjugés, ou de présupposés plutôt. Allez, on va dire présupposés. Donc, également... Je ne pas mes pages, donc je suis paumée là. La complexité des sexes, l'évidence à modérer cette complexité. Dire, quand on est une femme, c'est bien d'aller interroger des femmes parce qu'il y a une complexité de femmes. Donc c'est sûr que ça va être beaucoup plus facile. Je ne vais pas aller chez les hommes, ça va être un peu compliqué, tout ça, je suis femme. Et finalement, on s'aperçoit qu'en lisant les textes, et même à travers ceux qu'on a réunis grâce au corpus, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Évidemment, la relation sexuée et la relation sexualisée, ça c'était apparu. Autre chose, l'ordre politique, c'est-à-dire se poser la question de la domination masculine ou de la violence symbolique. C'est des choses qui vont apparaître. Alors peut-être pas suffisamment, parce qu'on nous a fait aussi, parmi les critiques, c'est de dire, que nous n'avions pas assez insisté, parce que c'est vraiment en creux, même s'il y a quand même une partie là-dessus, à la fin, on conclut sur la question de l'ordre et du politique, mais on n'en a pas fait le cœur de... on n'a pas fait le cœur. C'est là aussi où les questionnements de champ disciplinaires sont intéressants. C'est-à-dire que peut-être on ne peut pas satisfaire tout le monde parce que chacun tire avec son champ du côté de sa spécialité d'une certaine manière. Alors nous on est multispécialité, c'est bien le problème. Mais n'empêche que ça nous amène à traverser des questions qui me semblent encore aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, centrale comme celle de l'ordre moral et politique. Et c'est pour ça que peut-être il y aurait encore à continuer, ou d'autres pourraient continuer. Donc c'est de ce bilan que va se structurer aussi notre ouvrage. Trois parties. La première, qu'on a appelé l'enquête sous contrainte relationnelle, établir et entretenir la confiance. En fait, on était parti de l'idée de dire, et à travers tout ce qui était apparu dans les textes, que finalement l'enquête c'était aussi une relation sociale comme les autres. Ça va peut-être faire bondir certains. Mais n'empêche qu'on s'était... Voilà. Donc on a essayé de comprendre en quoi l'enquête, alors qu'on est une femme, hein, nous ramène à des questions de relations sociales. Deuxième partie, l'enquête ou le théâtre de relations sexuées. Là, tout d'un coup, on voit poindre plus évidemment la question des sexes. Et puis la troisième partie, parce qu'il y en a quand même une sur sexualisée, l'enquête ou le théâtre de relations sexualisées. Alors, c'est vrai que la structure de cet ouvrage, elle était aussi révélatrice de la façon dont on voulait aborder la question, c'est-à-dire du ce social, hein, et cette présence, ce questionnement social qui ne devait pas être exclu de la question du genre. Voilà. On aurait pu tout de suite être sur relation. Enfin, nos deux dernières parties, théâtre des relations sexuées et puis théâtre des relations sexualisées. Et on s'est dit non. Mais c'est sans doute ça aussi qui fait que tout n'a pas forcément été compris. Mais moi, je trouve que c'est intéressant, justement, de comprendre juste ce qui va être discuté. Et pourquoi c'est discuté. Donc, si on revient rapidement... J'ai combien de minutes encore? Parce que là, j'ai mis, mais je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé.
Un peu une dizaine.
D'accord. Ok. C'est bien. Donc, première chose, si on reprend un peu la structure de l'ouvrage, relations sociales. Qu'est-ce que ça pose comme question? Qu'est-ce que ça pose comme question dans la façon dont on établit une relation de travail? Parce que finalement, quand on dit relation sociale, c'est une relation sociale de travail. On va faire l'enquête, on ne vient pas pour... voilà. Sauf des fois, justement, c'est là où c'est intéressant d'interroger les protocoles. Quand on est sociologue, on a un protocole d'enquête. Quand on est ethnographe, on n'établit pas la relation de travail de la même façon, parce qu'il y a aussi d'autres types de critères qui rentrent en jeu, comme la temporalité de l'enquête, rester longtemps sur le terrain, ou faire un protocole où on a, je sais pas, 50 entretiens à faire, on a une heure et demie par entretien, on fait nos entretiens et fini, on ne revoit plus la personne. On ne peut pas dire que ce soit le même type de protocole, et ça, évidemment, influe sur l'enquête elle-même, sur la façon de la penser, sur la relation. Ça, la relation sociale ne se construit pas de la même façon dans ce cadre-là. Donc, se pose la question d'établir et d'entretenir la confiance, parce que c'était aussi un des termes qui arrivait souvent, la confiance. C'est-à-dire que quand on rentre en relation, on doit créer une relation de confiance. Il ne suffit pas de l'établir dans le cadre même de l'entretien, d'un entretien, mais de l'entretenir, de se montrer assez proche. Donc il y a aussi tout ce jeu qui apparaît dans les exemples de l'ensemble des auteurs de ce numéro. C'est vrai que je n'ai pas cité tous les auteurs, hein, j'aurais peut-être dû. Mais bon, comme on a peu de temps et que j'aimerais bien qu'il y ait les discussions, il faut que... Voilà. Donc il y a cette question donc de la façon dont on étaye une relation, mais sans pour autant être dans une conversation engagée. Et c'est là aussi toute la juste mesure. Jusqu'où va l'engagement? C'est pour ça que c'est des thèmes qui reviennent souvent, d'ailleurs, dans l'enquête. C'est quoi être engagé? Mais c'est un autre sujet. C'est faille à diriger un ouvrage sur ces questions. Il faut prendre aussi en compte, j'avais évoqué la question d'assignation. C'est-à-dire comment on vous voit? Qu'est-ce qu'on vous fait jouer comme rôle? Comment vous jouez ou pas ce rôle-là? En dehors du fait, Ce qui va vous amener aussi par moment à négocier. On est dans la négociation sur le terrain aussi. On est parfois même dans certaines obligations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder sans passer par, au travail de Pierre-Noël Deniol là, sur lui, les femmes entrepreneurs en Tunisie. Il est obligé de passer par des collègues femmes qui vont faire le lien. Donc il y a une forme d'obligation aussi. C'est-à-dire lui, il est contraint et puis il va être aussi assigné à certains types de profils. Un homme, étranger. Mais en même temps, ça va lui servir aussi. Et il va se servir aussi de ça. Alors qu'après, quand on a compris quel rôle on vous fait jouer, on se sert aussi de ça. Donc je passe un peu vite là parce que... Oui, évidemment aussi, et ça fait partie de la relation sociale, c'est que on se heurte à des résistances aussi. Pas parce que vous allez sur le terrain que tout est... Non, on se heurte à des résistances et ça fait partie de la relation sociale. Par exemple, il y a un certain nombre de contributions qui sont sur les institutions totales, la prison. Alors le navire, c'est pas une institution totale, mais il y a quelque chose. Eh bien là aussi, on voit aussi l'effet de l'institution, c'est-à-dire de l'importance des valeurs ambiantes, des stéréotypes qui baignent dans ce milieu-là et qui vont forcément avoir un effet sur la façon dont on va vous traiter, on va vous assigner et la façon dont vous allez avoir à gérer ça. Et donc, faire avec les valeurs du terrain, quoi, avec les valeurs du milieu. L'appartenance sexuelle, également, on le voit bien, ne garantit rien du tout. Elle peut être même pesante parfois. Donc, il y a tout ça qui participe de cette relation sociale. J'ai d'autres exemples, mais je vais continuer. Oui, une chose aussi, c'est que, je disais, le couple, le fait que l'enquête, eh bien l'enquête, on ne la fait pas forcément seule. Et dans la dynamique du terrain et des assignations, il faut aussi prendre en compte parfois la tierce personne. Par exemple, une des contributeurs, elle est sur un navire, elle travaille sur la marine marchande, les officiers de la marine marchande, et elle fait son premier terrain en partant avec un caméraman. Après, elle l'abandonne, le caméraman. Hein. Elle part plus avec son caméraman, elle part seule avec sa caméra. Parce qu'elle a compris aussi qu'il y avait eu des effets. C'est-à-dire, on croyait qu'ils étaient ensemble, qu'ils étaient en couple, rien à voir. Mais... Donc ça construisait une relation, une représentation de ce qu'ils étaient sur le bateau. Alors qu'elle n'avait pas du tout pensé à ça au départ. Et c'était son caméraman et de hiérarchie aussi. C'est-à-dire que lui était homme, elle était femme, à qui on devait parler, qui était finalement le chef, pourquoi l'homme n'était pas chef, pourquoi c'était elle qui était plutôt en fait, hein, et ça troublait aussi tout le monde. Enfin, ça a troublé, elle s'est rendue compte de ça. Donc, là aussi, quand on... Finalement, une des leçons de ce travail, c'est que ça nous oblige à nous questionner, à questionner même, avant de partir maintenant, on pourrait dire, ah bah tiens, mais oui, c'est vrai, il faudrait peut-être que je fasse attention, mais où testons, voyons, et voyons ce qui se passe. Et c'est ça qui est intéressant, c'est voyons ce qui se passe. Deuxième gros point, c'est donc la dimension genrée. Là aussi, dimension genrée, il y a des complicités, mais pas toujours. Il y a des résistances, mais pas toujours. Et il y a surtout de la mise en scène. On joue à être ce qu'on est. À être une femme ou à être un homme, etc. Moi, je dis ça là, mais effectivement, on pourrait poser la question de transgenre, est-ce que c'est pareil que... Et à l'époque, c'était pas notre problème, parce que d'abord, il n'y avait pas tellement de travaux là-dessus. C'est ça aussi. C'est que nous, on a fait aussi en fonction des productions. Maintenant, évidemment, peut-être qu'on changerait le sommet. Sans doute. Également très intéressant, quand on se pose cette question, on s'aperçoit que tout le langage finalement de Goffman, les façades, etc., est très présent dans les textes. C'est-à-dire que les récits d'enquête eh bien, parlent aussi des formes d'empathie, de la complicité, mais là justement de sexe, des complicités, comment on joue, des masques, de la façade. Ce qui amène aussi à interroger les lieux, c'est-à-dire il y a des lieux sexués. On s'en rend compte ou s'en rend pas compte. Tout d'un coup, je pense aux travaux de Malon dans les maisons de retraite, et elle va faire une lecture après coup de son travail. Elle nous disait, si j'avais su, j'aurais repris autrement maintenant. J'avais pas pris en compte cette dimension sexuée. Par exemple, les espaces masculins, les personnes âgées, hommes, avaient leur coin pour aller fumer, etc. Et de pas pouvoir aller dans ces lieux, finalement. Mais sans se poser la question, mais pourquoi il n'y avait pas ? Mais n'empêche qu'elle n'y avait pas, parce que c'était des hommes et elle était une femme. Alors, par contre, d'autres questions, c'est même... Elle s'est même pas posé la question, sauf après en revenant sur son terrain grâce à l'article. C'est une forme de port de la blouse, de faire l'aide soignante ou d'aider les infirmières. Il y avait une banalité, d'une certaine manière, à être ce qu'elle était. Il y a une forme de normalité à être infirmière ou aider, être dans l'aide. Mais elle-même ne s'est même pas posée la question. Par contre, après, elle revient aussi sur, effectivement, des relations avec les hommes de séduction. Mais ça, on va dire que c'est plus dans la sexualisation, justement, de l'enquête. C'est-à-dire jusqu'où ça va. Donc, après, il y a aussi les lieux, mais il y a aussi d'autres types de cadres, comme on tutoie ou on ne tutoie pas. Comment se marque justement la relation avec une femme, qu'est-ce qu'on va raconter ou pas, et inversement avec un homme. Et mais effectivement, les complicités homosexuées ou hétérosexuées ne vont pas du tout de soi. Alors que c'est vrai que même nous-mêmes, on était partis un peu de cette idée-là. Et en fait, non, ça peut même amener à des grosses ruptures. C'est-à-dire que ça peut ne pas marcher du tout comme je vous le disais. Une chose aussi qui participe de ce jeu, c'est évidemment l'apparence. Qu'est-ce qu'on fait de l'apparence ? Est-ce qu'on se change ? Est-ce qu'on s'adapte ? Est-ce qu'on défait, on enlève ses talons et on enfile le bleu de travail ? Ou autre chose ? Quelque part, il y a souvent... l'obligation de passer au vestiaire ou un vestiaire symbolique, c'est-à-dire c'est pas forcément porter une blouse ou etc. de changer quelque part d'identité pour adhérer à l'identité qu'on vous assigne aussi. Hein, parfois c'est plus compliqué, mais en même temps c'est aussi s'adapter. On s'adapte aussi aux conditions. Alors évidemment, je repense au travail de Agnès Jean-Jean. Quand elle descend, évidemment, dans les égouts, on lui recommande de ne pas mettre de jupe. Quand Jasmina Stevanovic doit monter sur un navire, voilà, elle sait, mais en même temps on lui fait remarquer aussi. Et la remarque, elle est aussi intéressante parce qu'elle participe de l'enquête. C'est-à-dire de dire à une femme, pas de talons, pas de bijoux, pas que ceci, ok, d'accord, j'ai quelques consignes là. Et en même temps, il y a le lieu, il y a l'apparence, et l'apparence, elle nous parle aussi du contexte. Parce que par contre, quand les cadres, je pense à Agnès Jean-Jean, lui disent « il y a un bal entre cadres, etc., tu viens à la soirée », là, par contre, ça serait mieux que tu sois en, entre guillemets, en jeune fille, en femme, etc. C'est-à-dire que les contextes, c'est ça aussi un autre point, c'est que les contextes, et j'arrive doucement à la fin, les contextes vous amènent à changer sur le même terrain, entre guillemets. C'est-à-dire les temps font que eh bien, vous vous réadaptez. Et là aussi, c'est fluctuant continuellement. Donc on ne peut même pas dire sur le terrain, c'est comme ça. C'est par moment, c'est comme ça. Suivant les contextes, c'est comme ça. Suivant les acteurs également. Et donc ça complexifie un petit peu l'affaire. Évidemment, donc... Le troisième point, la question de la sexualisation, hein, donc le jeu de séduction, les relations sexuelles, jusqu'où, voilà, est-ce que dans l'enquête, voilà, est-ce que ça participe aussi de l'enquête ou pas, jusqu'où ça va. Donc là, évidemment, on a moins de textes, mais sauf du côté des anglo-saxons, parce qu'il y a eu des textes sur... aussi le changement de comportement du chercheur sur le terrain en fonction de son statut familial. Et comme il change dans le temps, sa relation au terrain et aux autres, à ses autres et à ses hôtes, change aussi. C'est-à-dire que là aussi, c'est là où ça complexifie, c'est qu'on vieillit quand on est chercheur et que eh bien, les choses ne sont pas uniformes. Voilà. Et donc là aussi, on réadapte, ça se réadapte en fonction de nos âges. On n'a pas toujours 20 ans. Voilà. Enfin, un des derniers points que j'aurais voulu aborder aussi concernant ce travail, c'est qu'évidemment, nous avons choisi le sexe. Oui, c'est bon. Nous avons choisi le sexe de l'enquête. Un peu aussi par exercice, par intérêt, mais aussi par exercice. Et évidemment, les autres critères qui pourraient nous amener à des approches intersectionnelles de la méthodologie, hein, comment interroger la méthode et la méthodologie à travers la question d'intersectionnelle, c'est-à-dire les autres critères, âge, classe, etc., sont présents dans l'ouvrage. Mais ne sont pas la dimension que nous avons choisi sur laquelle nous avons choisi de nous focaliser. Mais c'est un des choix pour mieux comprendre justement ce qui se passait dans l'enquête dans cette relation de genre ou de sexe. Donc voilà, donc évidemment aussi la question du critère d'être étranger, etc., etc. Et puis, mais je l'ai déjà dit, c'est question donc de l'identité de, quelque part aussi c'est ça, du chercheur. Alors juste pour finir, c'est un peu ma conclusion. C'est que l'ouvrage a eu un certain nombre de comptes rendus et je trouvais que c'était intéressant aussi de revenir là-dessus. D'abord parce que ils ont un spectre disciplinaire assez large, je pense que c'est assez révélateur. Géographie, évidemment les cahiers du genre, les choses comme ça. L'histoire, sociopolitique, anthropologie évidemment. Parce que ça fait partie des deux disciplines annoncées. Ce qui est intéressant aussi, c'est que chacun a exprimé ses frustrations Et je vous ai dit que parfois, ces frustrations, je vous en ai déjà un peu parlé, eh bien, elles sont liées, eh bien, au fait qu'on regarde chacun en fonction de notre lorgnette, du bout de notre lorgnette. Mais alors, ce qui est quand même... ils s'accordent tous au moins sur un point, c'est que le bilan de la question est un vrai outil. Certains sont un peu déçus après de la collecte des contributeurs en écho avec le bilan de la question, mais c'est pour ça qu'il est très particulier cet ouvrage, parce que le bilan de la question il fait 60 pages, c'est pas un petit bilan de la question, et donc il y a quelque chose, mais c'est aussi ça qui est intéressant, c'est la mise en écho, à mon avis, qui est intéressant. Ce qui est pointé, c'est qu'effectivement, on est allé travailler un impensé. Je pense que... Et c'est aussi le fait que ça soit un impensé qui est intéressant. Et puis, surtout, je crois que ce qui est relevé, pas en disant, c'est un peu, il manque des choses, ou il faut continuer, etc., quand on est un peu... C'est toute la question de la réflexivité, de l'autobiographie. Est-ce que quand on parle de l'enquêteur et de l'enquêté de cette relation, est-ce qu'on va jusqu'à l'autobiographie, jusqu'où on peut aller, donc comment ça construit l'enquête, mais ça je vous l'ai dit, l'amont et l'aval, un manque évident, certains disent vous n'avez pas creusé ça, mais en fait c'est plus compliqué que ça, notre positionnement trop mou sur la question du féminisme et de la domination. C'est-à-dire qu'on est. Voilà. Et je crois que c'est aussi très intéressant de voir qui dit ça, d'où ça vient et de quelle génération. En général, c'est les plus jeunes. C'est pas que je vois eux, justement, je crois que c'est important parce que c'est très révélateur des questionnements actuels. Et justement, il faut aller. C'est grâce à la critique qu'on avance. Hein, Donc moi, je suis plutôt pour ça. Je crois que je vais m'arrêter là. Parce que sinon, il y aurait encore des choses à dire et puis à recreuser. Mais je voulais essayer un peu de vous montrer comment on produit quelque chose et quels sont les effets de cette production aussi, en retour, c'est-à-dire aussi revenir sur des questions. Et comme je disais quand même, je pense que Isabelle Claire a publié son article et il y a quelque chose du prolongement... De l'interrogation, quoi. Ce qui manquait là, voilà.
Tu pourras nous en faire part, cet article ?
Oui, alors l'article, j'ai pris la référence. Il est sorti assez récemment. Hein. Oui, c'est 2016. Et ça s'appelle. J'ai mis la référence de Pierre. Je vais la retrouver.
On le garde en réserve.
Oui, oui, mais... C'est la Revue française de sociologie 2016. Mais alors, c'est le titre.
La sexualité dans la relation d'enquête, décryptage, dans ta boue, méthodologie.
Voilà. C'est vraiment là, clairement. Voilà. Voilà, et donc on voit bien qu'elle a avancé, oui, mais parce qu'elle avait été très critique dans son compte-rendu, justement, et que je pense qu'elle s'est, quelque part, accaparée, entre guillemets, enfin, en tout cas, elle a rebondi sur notre ouvrage, et c'était ce type d'article qu'on cherchait, justement, avec un titre où était explicité méthodologie et genre, sexualité, sexuelle, sexuée, etc. Et c'était pas évident. Et c'est là où c'est très révélateur de comment ensuite elle a prolongé. Mais je trouve que c'est bien, justement. Si on a réussi à faire ça et à faire qu'il y ait d'autres chercheurs qui s'emparent de la question, c'est-à-dire de croiser méthodologie et genre, je crois qu'on aura gagné quelque chose.